Vous écoutez le studio Kalangou, il est 17h tout de suite, le journal en français. Au micro, je suis Rafika Taher. À la une, plusieurs centaines de chameaux emportés suite à l'attaque armée dans le village de Torenki à Birlingoni. Plus de détails dans ce journal. Les éleveurs de Chetimari s'inquiètent d'une nouvelle méthode de chasse dans la commune. Elle consiste à empoisonner les eaux de surface pour capturer les oiseaux. Mais les animaux sont contaminés et malades. Et la partie magazine de ce soir va porter sur le recyclage des déchets en aluminium au marché Katako de Niamey. Les chefs d'état-major des armées du Niger, du Burkina Faso et du Mali se sont réunis hier mercredi 7 mars à Niamey. À l'issue de cette rencontre d'une journée, les chefs des armées des trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, se sont entendus sur la création d'une force conjointe pour lutter contre le terrorisme qui frappe ces pays depuis des années. Selon le général Moussa Salah Oubarmou, chef d'état-major des armées du Niger, cette force conjointe des pays de l'AES sera opérationnelle dans les plus brefs délais pour prendre en compte les défis sécuritaires dans notre espace. Des zones armées non identifiées ont attaqué dès la nuit du mercredi au jeudi le village de Torenki, situé dans la commune urbaine de Birlingoni. Ils ont emporté 360 chameaux, selon Atiku Darani, chef du village de Torenki. Il est joint au téléphone par Assouman Moussa Rezeka.
Ils possèdent de nombreux troupeaux. Sept voleurs armés sont venus, mais ils n'ont pas tiré de coups de feu. Ils ont réveillé un peu pour les demander de les conduire vers les animaux. Ils se sont mis à égorger les chameaux. Après, ils ont réveillé un autre homme qu'ils ont enlevé. Ils ont emporté des chameaux estimés environ 300 têtes. Ils ont obligé trois individus à les conduire jusqu'à la frontière. Après avoir franchi la frontière du Nigeria, les bandits ont ordonné les trois personnes à rebourser chemin. Ils sont actuellement à la gendarmerie. Les chameaux appartiennent à des Touaregs.
À Diffa, des individus dotés de pouvoirs mystiques voleraient les parties génitales des personnes après salutation ou autre contact physique. Dans certains quartiers, des cas de lynchage ont été rapportés. Le chef de canton de la Koumadougou, l'honorable Mamadou Abakilari, appelle à la population de ne pas se faire justice. On l'écoute au micro de Mani Moussa.
Vraiment, je demande à tout un chacun, quand il se voit dans cette situation, de se calmer et de faire recours à l'autorité compétente, surtout à la chefferie traditionnelle. Dans nos cours, nous arrivons quand même à gérer ce genre de choses. Vous voyez dans quelle situation nous sommes dans la région de Diffa. Et si maintenant on vient, on colle encore cette affaire de disparition de je ne sais pas de quoi. Donc je demande à tout un chacun de se maîtriser et que tout son entourage doit être calme, de ne pas se rendre justice soi-même. Comme je l'ai dit plus haut, il faut toujours se référer à l'autorité compétente, surtout à la tradition. Nous avons nos traditions, nos mœurs, donc autant les respecter.
Toujours dans la région de Diffa, dans la commune rurale de Chetimari, les éleveurs vivant sur le lit de la Koumadougou Yobé lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités. Il s'agit de prendre des mesures adéquates contre la nouvelle pratique de chasse qui consiste à empoisonner les eaux pour capturer des espèces animales. Les conséquences commencent à affecter la santé des animaux. Soleil Amadou, un éleveur de cette zone, explique au micro de Maman Idrissa.
Le poison qu'on verse dans la Koumadougou Yobé dans la commune de Chetimari touche la santé des animaux. En plus des oiseaux qui se poisonnent dessus, quand les animaux consomment l'eau, ça les provoque des problèmes de santé. Le gouvernement a fait vacciner les cheptels, mais les éleveurs disent toujours que ce poison touche les animaux. Le gouvernement et les services des eaux et forêts doivent agir pour protéger les cheptels. Les oiseaux aussi ne doivent pas être tués de cette manière.
L'inspection des écoles primaires de Tchirozérine rencontre des difficultés, des cas d'abandon des jeunes filles en classe de CM2. La raison invoquée par les parents, c'est le manque de familles d'accueil en ville. Écoutons Ibrahim Kabir, inspecteur des écoles primaires de Tchirozérine, au micro d'Ahmed Félan.
Nous avons entrepris une mission au niveau du secteur pédagogique de Tamazla. Parmi nos trois secteurs, c'est lui qui est très éloigné. Nous avons ciblé ces écoles parce que c'est à partir de certains éléments. Ces éléments ne sont autres que la mauvaise fréquentation, ça veut dire la faible fréquentation scolaire, qui met l'accent surtout sur la scolarisation des filles. Maintenant, ces filles, dans notre inspection, c'est pas seulement dans ces écoles-là, dans la plupart de nos écoles, les filles arrêtent leurs études au niveau des CMD. Pourquoi les parents ont du doute à envoyer leurs filles au niveau des centres urbains? Surtout qu'au niveau des centres urbains, il y a assez de problèmes de tuteurs. Qui va les accueillir? C'est ça l'élément qui leur empêche de les envoyer continuer donc leurs études.
Restons à Tchirozérine où le centre des métiers appelé CMT vient d'ouvrir un centre de soins hier, mercredi 6 février. Un centre de soins qui vient pallier le manque de pharmacies que rencontre la population de la ville. Al-Hussein Kourouza, directeur du centre des métiers de Tchirozérine, au micro également d'Ahmed Félan.
Il s'agit du lancement des activités d'une salle de soins privée qui est installée dans nos locaux pour soulager les souffrances de la population de Tchirozérine. Il s'agit aujourd'hui donc d'une journée porte ouverte pour faire découvrir cette jeune salle de soins. Profitant de cette occasion, avec l'appui du docteur Al-Hussein Moussana, un natif de Tchiro, il a été décidé de faire le dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension. Que les gens puissent se faire dépister par rapport au diabète et à l'hypertension. La difficulté que nous avons à Tchiro, généralement, une fois qu'il fait nuit, les dépôts pharmaceutiques existants sont fermés. Vous allez à la formation sanitaire, on vous donne une ordonnance. Les produits ne sont pas disponibles. Donc, Tamat Soins, qui vient d'ouvrir ses portes, dispose d'une pharmacie, en tout cas pour prendre en charge les malades. Et il y a un licencié en soins infirmiers qui est là 24/24 pour prendre en charge les malades.
Les femmes du village de Gourou-Bombéry, commune rurale de Tondikandia, pratiquent les cultures irriguées qui ont contribué à la lutte contre l'exode rural des femmes. Ces cultures ont aussi fixé et augmenté l'effectif des élèves, surtout de la jeune fille à l'école. Suivant leur témoignage au micro de Seydi Abdouine Ditan.
Les avantages qu'on a eu dans ce jardinage, nous savons comment planter et comment arroser les planches. Cela nous est beaucoup bénéfique. Nous ne gaspillons plus notre argent. Nous n'achetons ni la salade, ni l'oignon, ni du chou. Tout ce qu'on gagne, nous mangeons dedans et on donne aussi aux autres. Ça nous a aussi empêché d'aller en exode à Niamey. Nous suivons les études de nos enfants comme ça se doit.
Le premier bénéfice qu'on a eu dans le jardinage, c'est qu'on a appris beaucoup de choses, notamment la préparation des planches et les semis. À travers cela, nous mangeons, vendons et faisons des cadeaux aux autres. Nous avons des petits-enfants dont les parents sont partis à Niamey. Tout cela est fini maintenant. Maintenant, elles restent à la maison pour faire du jardinage.
Il y a quelques mois, les autorités du Nigeria voisin ont interdit l'exportation des céréales vers le Niger. Ceci a eu pour conséquence chez les commerçants de Tawa de se tourner vers les villages pour s'approvisionner, a indiqué Alhaj Abdou Ibrahima, commerçant à Tawa. On l'écoute au micro de Idriss Adamou.
Le sac de mil de 50 kg est vendu à 16 500 francs CFA. Celui de 5 kg à 28 500 et le sac du sorgho de 5 kg à 27 500 francs. Les prix peuvent baisser tout comme ils peuvent monter pendant le ramadan parce que nous achetons. Les prix ne font qu'augmenter. Ils souffrent plus que nous là-bas. Nous n'avons pas de problème de vivre ici. On amène des vivres de partout au Niger, de Maradi, de Tawa. Ce qu'on peut trouver au Nigeria, surtout, c'est les aliments. Détail. Mais ça ne se passe pas facilement. C'est par des voies de contournement qu'on arrive à les emporter.
La compagnie minière Dakuta, Kominak filiale du groupe Orano, a fermé ses portes en mars 2021. Dans les clauses de l'arrêté de production d'uranium, la société a pris l'engagement de réaménager le site. Après 2 ans d'activité, les organisations de la société civile d'Arlit ont visité les travaux de réaménagement. Quelques-uns donnent leur impression au micro de Gungu Mahamandantani.
Le réaménagement du site de Cominac dépendra du réaménagement de Soumaïr, de Govex, de Somida et d'autres entreprises qui vont se créer. Nous avons intérêt, nous et Orano et Cominac, de bien faire le réaménagement du site. La visite, c'est une très bonne chose. Et c'est ça qui est important. Il faut mettre notre intelligence dans cette affaire. Orano, elle a donné la chance à la population de venir voir de visu et s'exprimer après et donner leur point de vue.
Comme disent les Haoussa, mieux vaut voir qu'entendre. Les techniciens ont fait leur sondage devant nous sur le site. Si le travail se poursuivre ainsi, l'environnement et les populations sont protégés.
Nous avons été témoins du bon déroulement des travaux. Si tout le travail se déroule comme nous l'avons constaté, c'est bien. Nous avons aussi visité tout le site et nous sommes satisfaits du travail abattu. À ce rythme, nous pensons que la population en sera fière.
Au Niger, la gestion des déchets d'aluminium passe par le recyclage. En effet, ces déchets sont transformés en plusieurs objets, notamment des ustensiles de cuisine. Une activité bénéfique pour les populations et l'environnement. Suivons ce reportage de Assoumane China dans la partie magazine.
Dans son atelier, sur le marché de Katako de Niamey, Mamoudou Ali et ses trois apprentis s'activent pour fabriquer des marmites et autres ustensiles. Ces produits sont faits à l'aide des déchets d'aluminium. Mamoudou Ali explique le processus de fabrication d'une marmite.
Pour fabriquer une marmite, nous nous servons de sa forme préétablie. Nous la plaçons d'abord dans du sable mouillé. Ensuite, nous la retirons minutieusement en prenant toutes les précautions afin que le sable mouillé garde la forme de la marmite. Après cela, nous versons le liquide d'aluminium fondu qui prendra la forme d'une marmite que nous récupérons au bout d'un certain temps.
Ces ustensiles composés de marmites, de louches et autres sont fabriqués à partir de déchets d'aluminium fournis par des collecteurs. Suleiman exerce ce travail de collecte des déchets de ferraille depuis une dizaine d'années, une activité qui lui permet de gagner sa vie.
Nous avons des partenaires en ville qui nous réservent des déchets de ferraille. Nous prenons l'argent auprès des bailleurs pour acheter. Nous utilisons les bénéfices et nous leur rendons leur argent. Par exemple, quand des garagistes et certains projets veulent vendre leur matériel, ils font appel à nous pour acheter.
Les fabricants des ustensiles travaillent pour vendre leurs produits. Des fois, la fabrication s'est faite sur commande, ce qui cause des problèmes au cas où ils n'arrivent pas à respecter les rendez-vous, explique Mamoudou Ali.
Il nous arrive d'avoir des difficultés avec des clients qui commandent des produits chez nous. Les difficultés qui sont liées surtout au manque de matériel ou de personnel de soutien. Du fait que nous n'arrivons pas à leur livrer les produits à temps, ce qui provoque un malentendu entre nous et nos clients. Certains peuvent même nous insulter.
Ce recyclage des déchets d'aluminium constitue une source de revenus pour les différents acteurs. Il contribue également à assainir l'environnement à travers la collecte.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, place au journal en langue nationale. Écoutez le forum à 18h15 sur la promotion du leadership féminin comme levier du développement social. Et c'est dans une présentation de Rabia Mekano. Studio
Kalangu. Suivez les programmes du Studio Kalangu
à Magaria
sur la radio Kitari
101.5 MHz,
à Zender
sur la radio Shukra FM
105.5 MHz,
à Tanout
sur la radio Damergou 99 MHz,
à Difa
sur la radio Amfani
100 MHz,
à Menosorowa
sur la radio Mangari
95.1 MHz,
à Ingigmi
sur la radio Dileram
99 MHz,
à Kabalewa
sur la radio Mambio
99 MHz,
à Agadez
sur la radio Nomad FM
101.9 MHz
et sur la radio Sahara
97 MHz,
à Arlit
sur la radio Ikokan
95.1 MHz
et sur la radio Kausen
94 MHz,
à Chirozerin
sur la radio Azuru
99 MHz. Studio Kalangu.